Depuis la nuit des temps, elle frappe sans prévenir. Et ses ravages sont terrifiants. La malédiction des trois corbeaux arrive sur Europe 1 et personne n'y est préparé. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Chaque année, des milliers de curieux affluent vers un tout petit village de l'Aude. On est à 10 km à vol d'oiseau de Montségur, dans l'espoir de percer un grand mystère et qui sait, de découvrir un fabuleux trésor. Le village en question s'appelle bien sûr Rennes-le-Château et Franck Ferrand a choisi de nous y emmener cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est en 1885 que le désormais célèbre abbé Saunière avait été nommé curé de Rennes-le-Château, dans la région de Carcassonne, et c'est une dizaine d'années plus tard qu'il s'est mis à faire des dépenses somptuaires, laissant penser qu'il avait découvert un trésor. Il mourra lui-même pendant la Première Guerre mondiale en 1917. Si j'ai choisi de lui consacrer une émission aujourd'hui, c'est qu'un livre important vient de paraître sur l'affaire, la grande synthèse qu'attendaient les amateurs de mystères.
Cet ouvrage s'appelle Le secret dévoilé, sous-titré Enquête sur les mystères de Rennes-le-Château, et son auteur, Christian Doumergue, est avec nous dans ce studio.
Christian Doumergue se passionne pour Rennes-le-Château depuis 20 ans et même plus. Et s'il connaît très bien toute l'histoire de l'abbé Saunière, vous allez voir qu'il ne s'en tient pas à cela et qu'il maîtrise aussi tous les différents mythes greffés au fil des années sur ce mystère. Il a confié la double préface de son ouvrage à deux amoureux de l'énigme, les fameux Giacometti et Ravenne. Et je suis heureux que Jacques Ravenne nous fasse l'amitié d'être venu lui aussi. Si vous voulez mon avis, nous ne devrions pas nous ennuyer dans l'heure qui vient.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Alors je vous résume cette histoire qui depuis plus d'un siècle maintenant fascine des milliers de chercheurs de trésors, d'amoureux du mystère et autres mythophages. En 1885 donc, l'abbé Béranger Saunière, il est âgé de 33 ans à l'époque, est envoyé dans un petit village perché sur une colline perdue de la haute vallée de l'Aude, un village dans un paysage assez désertique. On est à une quarantaine de kilomètres au sud de Carcassonne. L'abbé Saunière, c'est un personnage qu'il faut imaginer de forte stature, hein. Il est grand, fort. C'est un personnage aussi qui a beaucoup de caractère et dont les idées sont très avancées pour l'époque, ce qui explique peut-être sa nomination à l'écart dans cette cure un peu perdue de la haute vallée de l'Aude. C'est un homme qui connaît bien le grec et l'hébreu, qui va perfectionner son latin. C'est aussi un bon curé, il faut le dire, parce qu'on a souvent tendance à passer un peu rapidement sur tout cet aspect quotidien. C'est un homme de foi profonde qui s'occupe avec soin de ses quelques 200 ouailles. C'est tout petit, Rennes-le-Château, c'est encore bien plus petit aujourd'hui d'ailleurs. Quant à son église, l'église Sainte-Marie-Madeleine, elle tombe littéralement en ruine. Alors l'abbé entreprend de la restaurer, modestement bien sûr, à la mesure des moyens fort maigres qui sont les siens. Avec les années, on va voir néanmoins les travaux devenir de plus en plus importants. Et puis, au-delà de l'église, ce sont bientôt des constructions qui vont pousser dans ce village. Alors, on va voir naître une villa de style Renaissance, une tour néo-gothique, une verrière, un belvédère, un parc digne des plus belles demeures de la belle époque. Bref, un luxe inouï, des dépenses incompréhensibles et qui ne peuvent qu'exciter la curiosité, l'envie, la médisance et, disons-le, qui ne peuvent qu'exciter aussi l'imagination du voisinage dans un premier temps et puis peu à peu de tous ceux qui, de près ou de loin, vont s'intéresser à cette affaire. « Il a trouvé un trésor !» murmurent les paysans du coin. Il se dit qu'un jour de 1891, deux maçons du coin, ils s'appellent Rousset et Babou, seraient venus à l'église pour déplacer le maître-autel. Imaginez une grosse table de pierre reposant sur un pilier wisigothique, un pilier creux. L'abbé aurait trouvé dans ce pilier trois étuis de bois qui portaient des documents manuscrits. Il les aurait emportés et ça aurait été l'origine des découvertes extraordinaires qu'il est censé avoir faites. Et le fait est que le prêtre a bel et bien organisé des fouilles. Elles ont eu lieu dans le cimetière du village. Il s'est fait aider de sa jeune servante, la Marie d'Énarnaud, personnage très important, un témoin essentiel de l'affaire et qui du reste mourra seulement 36 ans après la Bessonnière en 1953. Si Béranger Saunière a mis la main sur un fabuleux trésor, il en reste peut-être quelque chose dans le sol, ou plutôt dans le sous-sol de Rennes-le-Château. C'est ce que se disent en tout cas les hordes de chercheurs qui, les décennies passant, ne cessent d'affluer sur la petite colline. Car si les contemporains de l'abbé Saunière ne se sont en apparence guère posés de questions sur la nature de ce supposé trésor, nous dit Christian Doumergue, dans les années 1960, la rumeur persiste se transforma en véritable énigme historique. Dès lors, les hypothèses se multiplièrent pour essayer d'apporter un semblant d'explication à l'origine de la fortune du curé au milliard. On parla d'abord du trésor de la reine Blanche de Castille, qui avait donc vécu au début du XIIIe siècle. Très vite, une autre idée s'imposa durablement, beaucoup plus étayée et probable au regard de l'histoire. Elle invoquait le butin des Visigoths, trésor fabuleux constitué des richesses amassées par le souverain Alaric. Alors là, ça nous ramène au tournant du 4e, 5e siècle. Un trésor comprenant les trésors du temple de Jérusalem pillés en 70 par les Romains. Trésor dont on perd la trace en cette ancienne cité visigothe située non loin de Rennes-le-Château, Carcassonne. On peut dire qu'à partir de là, le mythe était lancé. Alors sur quoi repose-t-il au juste? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'étudier de plus près en compagnie de mes invités.
Un titre de 1989, générique du téléfilm qui reprend l'histoire de l'abbé Saunière avec Jean-François Belmer et Michel Aumont.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Au cœur de l'histoire, cet après-midi, on s'intéresse au mystère de Rennes-le-Château avec nos invités Franck, Christian Doumergue, écrivain, auteur de Le secret dévoilé, enquête sur les mystères de Rennes-le-Château, préface d'Éric Giacometti et Jacques Raven, son préfacier, qui est également avec nous.
Bonjour à tous les deux. On voit comment, à partir d'une simple rumeur de trésor, on est parvenu à cette gigantesque machinerie, si ce n'est manipulation, qui a fait de Rennes-le-Château la mecque de l'ésotérisme mondial, écrivez-vous Jacques Raven. Et c'est vrai que l'ouvrage de Christian Doumergue, qui est un peu maintenant la bible du sujet, hein, tout est résumé, c'est la grande synthèse sur la question, nous montre qu'à partir de somme toute assez peu de choses, se sont greffées énormément d'histoires.
Ah ben on a eu plusieurs évangiles, maintenant on a la Bible, on va dire ça comme ça. Effectivement, on est parti d'une banale histoire de trésor, probablement, possiblement, trouvé par un curé au fin fond de l'Aude. Et on arrive aujourd'hui à un mythe quasi universel qui fait que cette énigme de Rennes-le-Château, ben c'est l'énigme des énigmes. Et Rennes-le-Château lui-même, c'est devenu aujourd'hui la mecque de l'ésotérisme.
Ça peut être incroyable pour le maire et pour les habitants de ce petit village de savoir qu'ils sont au cœur de la planète mystère. Si
je pense que ça a été surtout incroyable le jour où les paroissiens de l'église sont sortis, que le parvis avait explosé. Dynamité par des chercheurs trésors le jour même de la messe.
Alors c'est assez incroyable tout ce que vous nous racontez, Christian Doumergue. Ce que je vous propose, c'est de repartir à l'origine, même si on ne va pas s'attarder indéfiniment sur l'abbé Béranger Saunière, mais tout de même, il est nommé en 1885, il arrive dans cette paroisse. Il faut donner une idée du décor, hein. C'est pelé hein, la région, alors, cette haute vallée de l'Aude.
Oui, c'est absolument désertique, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un paysage de montagne puisque c'est clos par la chaîne des Pyrénées, et c'est des terres agricoles avec de très petites agglomérations. Et c'est vrai que ce curé, quand il arrive à Rennes-le-Château, il va tout de suite faire parler de lui, hein, puisqu'il va être en fait suspendu de ses fonctions très rapidement, quelques mois après sa nomination, puisqu'il est rentré en infraction avec le code hein, qui régissait le discours des prêtres à l'époque. Pas de prise de position politique en chaire. Lui, c'est ce qu'il a fait, donc il est suspendu de ses fonctions très rapidement. Et c'est un petit peu le déclencheur de sa vie d'après à Rennes-le-Château, quand il va revenir un an plus tard.
Donc quand même, et ça il faut insister là-dessus d'emblée, un esprit fort, quelqu'un qui n'est pas du tout dans la norme, c'est le moins qu'on puisse dire.
Non, c'est un prêtre atypique, effectivement, qui a des idées, qui a des opinions, qui n'hésite pas à enfreindre la loi pour les exprimer. Mm-hmm. Pour le situer rapidement, donc, il est anti-républicain, nostalgique de la monarchie.
Et même de la branche aînée des Bourbons. Hein,
absolument, ça, c'est un royaliste légitimiste. Et donc, il va décider de mener ce combat coûte que coûte, même si lui doit en payer le prix. Donc, ça, c'est un premier point de sa personnalité. L'autre côté atypique, c'est que c'est un prêtre, mais il a un fort penchant artistique, et on le voit dans la construction de son domaine. Lui-même se définit comme un prêtre à la martiste. Donc il y a tout ce côté-là qui est assez singulier aussi. C'est-à-dire que il aménage cette villa Béthanie dont vous parlez, et à l'intérieur il a une décoration qu'il met en place et qui n'est pas du tout religieuse, qui est très Art Nouveau par exemple.
On est tout, oui, alors Art Nouveau pour ce qui est du style, et puis quelque chose d'assez païen, pour ne pas dire même d'assez hérétique dans les références. On voit un homme passionné tout de même des hôtels. Il est assez facile d'aller trouver, alors après on brode évidemment à l'infini, mais il est facile d'aller trouver des symboles dans tout ce qu'il fait, dans la restauration de l'église dans un premier temps, dans les constructions qui vont agrémenter peu à peu son domaine. Par la suite.
Alors là, c'est vrai que c'est un domaine qui est assez difficile à explorer, puisqu'on est effectivement souvent dans l'extrapolation. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques symboles qui sont par contre indéniables, factuels. C'est vrai que le domaine est régi sur un plan très particulier. Il y a des chiffres qui reviennent constamment. Il y a cette opposition entre l'éternel et l'éphémère qui, symboliquement, au niveau des constructions, revient en permanence. Une tour de pierre opposée à une tour de verre. On a une structuration d'ensemble qui est calquée sur le modèle d'un échiquier. Donc ça aussi c'est du factuel. Là on n'est pas dans l'interprétatif.
Alors il arrive en 1885. D'ailleurs vous avez dit qu'il était royaliste légitimiste. On est à une époque de fortes interrogations sur la nature du régime. Le régime républicain vient tout juste de s'installer définitivement en France. Enfin définitivement, de façon très ancrée. Alors ce qui est assez fascinant dans les travaux de la Bessonnière, ça commence très modestement en 1886 et puis ça se développe. Ça devient très important dans l'Église. Les travaux vont se poursuivre jusqu'en 1897. Ouais. Et puis on voit ensuite sortir de terre, j'allais dire une ville nouvelle, c'est beaucoup dire, enfin des fabriques, des constructions assez étranges, Jacques Ravenne.
Ah oui, vous avez une villa néo-renaissance qui jure totalement par rapport à ce qu'il y a autour. Il y a une tour néo-gothique, il y a une verrière où il y a eu des animaux, il y a un jardin avec quelques labyrinthes à l'intérieur. Mais là où ça pose véritablement question, c'est que si on a quand même un prêtre qui est effectivement curieux de tout, qui s'intéressait à l'hébreu, au latin, qui a fouillé, qui a été un grand lecteur, il reste quand même qu'il n'avait pas le background culturel pour produire tout ça.
Et voilà.
Et c'est là où se posent un certain nombre de questions. Tous ces symboles auxquels Christian fait référence, est-ce que c'est lui qui les a mis en place ou si quelqu'un d'autre que lui, dans ce petit village que rien ne prédestinait, l'a aidé à faire quelque chose?
Ça, c'est la grande question que nous allons nous poser, si vous le voulez, vers la fin de cette émission. Et avant ça, ce que j'aimerais qu'on voit tout de suite, c'est avec quels moyens la Bessonnière a pu construire tout ça. D'où tirait-il sa fortune apparente? Eh bien, c'est la question que nous allons nous poser. Nous sommes donc dans l'Aude cet après-midi, dans ce petit village de Rennes-le-Château, avec là-bas, dans le fond du décor, les tours impressionnantes de Carcassonne.
Joyeuse cité, celle de Carcassonne, hiver comme été, enfants et grandes personnes y vont danser le bebop, et c'est gentil comme tout. Ces vieux murs, mon cœur en frissonne, au lieu des armures, des airs de jazz résonnent et font danser les bebops, et c'est un succès fou. Dans les donjons, il y a des trombones heureux qui soufflent des chansons pour les cœurs amoureux, et jusqu'au fond des vieux mâchicoulis, on entend jour et nuit des cris, joyeuse cité, celle de Carcassonne, hiver comme été, enfants et grandes personnes y vont danser.
On écoutait Charles Trenet sur Europe 1, dont c'est le centenaire en ce moment même. On écoutait la cité de Carcassonne.
Europe 1.
L'heure est à la mondialisation de la matière grise et du patrimoine. Sur ce terrain, la France a une sérieuse carte à jouer. Vous souhaitez aller travailler à l'étranger? Rendez-vous à 14h avec Elena Morna et ses experts pour tout savoir sur les compétences françaises qu'on s'arrache dans le monde entier.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, cet après-midi, on s'intéresse à Rennes-le-Château, Franck.
Et oui, et évidemment, l'évêque de Carcassonne se demande un peu ce que fabrique son curé là-bas à Rennes-le-Château et d'où il tire les moyens de restaurer, de construire, et de mener cette politique d'envergure. Alors, que va donner l'enquête de l'évêché de Carcassonne, Christian Doumergue ?
Alors l'enquête, elle commence en 1909, hein, puisque jusqu'en 1909, Béranger Saulnières peut faire ce qu'il veut à Rennes-le-Château. 1909, c'est le moment où tout le domaine est achevé, y compris la décoration intérieure. Et à ce moment-là, effectivement, son évêque va décider d'intervenir. Il va le nommer dans une autre paroisse, hein, paroisse de Coustouche, très éloignée. Béranger Saulnières refuse cette nouvelle nomination. Ça montre une fois de plus la force de son caractère. Et à partir de là, l'évêque va lui demander de se justifier. D'où tire-t-il ses fonds ? Béranger Saulnières va fournir à ce moment-là une liste de donateurs qui ne convainc pas vraiment son évêque. L'évêque est persuadé que le prêtre se livre à ce qu'on appelle du trafic de messe. C'est-à-dire que ce prêtre recevrait plus d'intentions de messe rémunérées qu'il ne peut en dire et il en tirait des bénéfices. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, on a eu accès à ces diverses correspondances, hein, ces divers échanges qui ont eu lieu pendant le procès. On sait avec certitude que l'abbé Saulnières a bien fait du trafic de messe. Mais ce qui est certain aussi, c'est que les chiffres qu'on obtient ne permettent pas...
Ça reste modeste quand même.
Voilà, ça reste modeste. En gros, il arrondissait ses fins de mois comme il l'a fait avec d'autres commerces. Mais ça s'arrêtait là. Le gros des donations... J'ai réussi au cours de mon enquête à l'expliquer pour la première partie de ses travaux, c'est-à-dire la restauration de l'église. Là, on est dans un financement politique. C'est-à-dire que les recherches que j'ai pu faire aux archives départementales de l'Aude m'ont permis d'exhumer des documents concernant une cellule royaliste réactionnaire qui était installée à Narbonne, à la tête de laquelle se trouvait le propre frère de Béranger Saulnières, Alfred Saulnières. Cette cellule s'appelle le Cercle catholique de Narbonne. C'est un instrument de propagande royaliste et donc il comptait les plus riches familles de Narbonne et des environs
donc
de Narbonne.
Donc il aurait pu avoir là des donateurs et des donatrices en quelque sorte.
Absolument. Oui. Quand on compare les personnes qui ont fondé ce cercle catholique de Narbonne avec les listes que l'abbé avait fournies à son évêque à partir de 1909, on se rend compte qu'il y a énormément de coïncidences. Et j'ai confirmé cette hypothèse par un autre fait. Ce cercle catholique de Narbonne avait un slogan en quelque sorte, Inox Igno Vinces, qui était sa signature, qui se trouve sur tous les documents émanant de ce cercle. Eh bien, cette signature, on la retrouve à l'entrée de l'église de Rennes-le-Château, voilà. Comme si les donateurs avaient signé leur œuvre.
Comme si c'était un peu l'ex-voto, en quelque sorte, ou la signature des donateurs, comme vous le dites plus exactement. Alors, à partir de là, on se dit, mais le trésor dans tout ça, ne me dites pas que vous ne croyez pas du tout au trésor, Christian Doumergue.
Ah, je ne dirais pas ça. Non, je ne dirais surtout pas ça. Non, je ne dirais pas ça parce qu'effectivement, on s'aperçoit que Béranger Saulnières a fait de l'argent avec certains trafics, avec certaines donations, etc. Mais on se rend compte aussi en étudiant sa vie, et notamment à travers des documents qu'on peut encore aujourd'hui consulter qui se trouvent aux archives départementales, qu'il a aussi fait des fouilles dans son église et autour de son église. En 1897, on a des rapports adressés par le maire de Rennes-le-Château à la sous-préfecture de Limoux qui nous parlent des agissements du prêtre dans le cimetière. Et ces rapports nous disent clairement... que le prêtre fait des fouilles.
Oui,
voilà.
C'est
et les villageois ont effectivement gardé dans leur souvenir cette image du prêtre qui chaque nuit allait dans le cimetière en compagnie de Marie et tous les deux creusaient pour chercher on ne sait quoi.
Alors cette Marie, évidemment, elle fait jaser, elle aussi, parce que c'est la jeune servante du curé et elle est complètement complice des travaux qu'il mène et des fouilles qu'il va peu à peu développer, parce qu'elles vont être assez relativement importantes, ces fouilles, quand même.
Alors, les fouilles vont être relativement importantes quand on étudie les travaux que l'abbé réalise autour de l'église, hein, notamment ce jardin qu'il va s'approprier, ceinturé de murs et de portes fermées. On se rend compte, quand on étudie ça et qu'on compare avec les dates avérées de fouilles dans le cimetière, qu'en fait, il ceinture le lieu pour faire des fouilles à l'abri des regards indiscrets.
Vous y croyez à ce trésor, vous, Jacques Ravet ?
Ah, j'y crois pleinement, je l'ai même cherché. Mais malencontreusement...
Vous êtes allé le chercher, vous y êtes allé,
Ah oui, à deux reprises, avec mon co-auteur, nous avons fait des fouilles dans la région. Et comme vous pouvez le constater, l'échec est total et patent, puisque nous sommes là. Mais non, ce qui est fascinant quand on
J'ose espérer que si vous étiez milliardaire et que vous aviez découvert le trésor, vous viendriez quand même dans le cœur de l'histoire.
J'aurais déjà accouru, mais je ne vous aurais pas révélé le trésor en revanche. Non, ce qui est très intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est que finalement, toutes ces familles catholiques qui sont regroupées à Narbonne, pourquoi ont-elles jeté leur dévolu sur Rennes-le-Château? Il y a pléthore de prêtres réactionnaires royalistes dans la région. Ça en regorge.
Oui, donc ce n'est pas une explication suffisante.
Voilà, ce n'est pas une explication suffisante. Je pense qu'effectivement, on est quand même à un moment où les légitimistes s'interrogent beaucoup sur quel roi de France, les lignées
royale de France. L'énigme de Louis XVII réapparaît aussi à cette époque. On en parle beaucoup. Il y a la Fernandhof qui est connue. Et c'est vrai qu'il présente un intérêt pour ce lieu, à tel point qu'on a vraiment l'impression que ce ne sont pas des dons faits à un curé buraliste, mais que c'est plutôt une avance sur paiement de ce qu'il pourrait trouver.
D'autant voilà. plus que lui-même reconnaît avoir trouvé un petit trésor, un trésor d'époque révolutionnaire en l'occurrence. Hein, il a fait des négociations avec des revendeurs, des joailliers locaux. Enfin bon, il y a de toute façon quelque chose d'avéré dans cette
affaire. Il a trouvé effectivement une crypte, hein, Christian le confirmera, crypte qu'il a fouillée, dans lequel pouvait se trouver un trésor soit qui datait de l'époque pré-révolutionnaire, donc plus ancien, soit de l'époque révolutionnaire, quelque chose de caché. Et on sait effectivement qu'il a revendu un certain nombre de pièces sur des joailliers qui étaient à Lyon et à Anvers. Ce qui laisse quand même à penser, quand on parle de Lyon et Anvers, qui étaient de grosses places de joaillerie de type européen, n'oublions pas que ce prêtre est dans un tout petit village de 100 habitants, que quand même les pièces qu'il a trafiquées, parce que c'est ça le terme qu'on employait à l'époque, étaient d'ampleur. Ça ne pouvait pas être des petites choses.
Oui, c'était pas des babioles.
Non, c'était pas des babioles.
Et puis on a ce journal de l'abbé Saunière, alors qui certes est fragmentaire, mais qui nous en apprend quand même sur le sujet.
Oui, absolument. Alors effectivement, il est très fragmentaire. On n'en a que quelques pages finalement. Concernant l'année 1891, donc qui se déroule pendant la période des travaux dans l'église, le 21 septembre 1891, l'abbé consigne mystérieusement découverte d'un tombeau. Donc là, c'est une trace tangible et avérée qu'il a bien découvert quelque chose à l'occasion des travaux dans l'église.
Alors avant d'entrer en détail dans cette affaire du trésor et de répondre aux grandes questions que posait Jacques Ravenne dans le tout début de cette émission, je vous propose de découvrir qu'un abbé peut en cacher un autre. Et l'abbé dont je vais vous parler, c'est l'abbé Boudet, dont il est largement question dans vos pages, évidemment, Christian Doumergue, et qui peut-être nous permet d'apporter un autre éclairage sur cette affaire. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le secret dévoilé, enquête sur les mystères de Rennes-le-Château. C'est édité aux éditions de L'Opportun.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Et on continue de parler de Rennes-le-Château et plus particulièrement de l'abbé Boudet.
En effet, les auditeurs d'Europe 1 connaissaient bien Didier Audineau qui a officié sur cette antenne de 2000 à 2003, grand chasseur de trésors et qui, s'intéressant évidemment à Rennes-le-Château, ça aurait été impossible qu'il ne s'y intéresse à point, et en était venu à découvrir l'importance dans le voisinage de Rennes-le-Château d'un autre village, celui de Rennes-les-Bains, où se trouvait, je le cite, un trésor bien plus intéressant et bien plus authentique. Alors, la petite cure de Rennes-les-Bains au début du XXe siècle se trouve, ça n'a pas changé du reste, à 7 km à peu près de Rennes-le-Château. C'est une ancienne station thermale gallo-romaine que dirigeait donc un prêtre tout à fait contemporain de l'abbé Saunière, un ami de l'abbé Saunière d'ailleurs, l'énigmatique abbé Boudet, comme vous venez de le citer, Céline. Alors, cet abbé Boudet avait été nommé bien avant l'abbé Saunière, hein, puisque lui était en place à Rennes-les-Bains dès 1872. Je vous parle de Rennes-les-Bains, c'est un paysage sensiblement différent de ce qu'on peut trouver à Rennes-le-Château. On vous a parlé jusque-là de pierres affleurantes, d'un paysage assez sec, presque désertique, très aride en tout cas. On est proche du plateau. Rennes-le-Château se trouve sur ce sommet de colline, si vous voulez. Là, Rennes-les-Bains, au contraire, il faut imaginer un paysage vert, beaucoup plus souriant, beaucoup plus aimable en quelque sorte, où donc se trouve la cure de cet abbé Boudet. L'abbé Boudet fait partie, vous savez, de ces personnages qu'on trouvait encore dans nos campagnes il y a ne serait-ce que 30 ou 40 ans, et malheureusement, j'ai eu l'occasion de m'en plaindre assez régulièrement, malheureusement, ils ont tendance à disparaître. C'était les érudits locaux, vous savez, qui animaient les petites sociétés savantes de nos différentes provinces. C'était tantôt le notaire, tantôt le pharmacien, tantôt le curé local, bien entendu, qui savait à peu près tout sur la région, qui s'intéressait à tous les mystères et à tous les éléments saillants d'une histoire parfois très riche. C'est exactement le cas de cet abbé Boudet qu'on voyait parcourir constamment la campagne à la recherche de lieux étranges et d'explications. Alors, il était passionné, lui, notamment par ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, les vestiges néolithiques. À l'époque, c'était un peu plus complexe, peut-être. À la belle époque, on n'avait pas encore exactement daté tout ça. Lui était passionné par les pierres levées, par les alignements, par ce qu'on appelle les cromlechs, c'est-à-dire les grands cercles de pierre, etc., dont il avait d'ailleurs tendance à identifier assez largement la présence, puisque un certain nombre de sites tout à fait naturels étaient identifiés par l'abbé Boudet comme culturels. Pour avoir beaucoup travaillé moi-même sur ces questions, Je connais du reste la réserve des autorités archéologiques officielles dans ce domaine et je sais à quel point un certain nombre de sites dits naturels sont en vérité des sites culturels, mais je ferme cette parenthèse. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à Rennes-les-Bains, à l'époque gallo-romaine, on exploitait des minerais aurifères et, si l'on en croit un auteur ancien, c'était un gisement extrêmement important puisqu'on trouvait près de 400 grammes d'or la tonne. Alors que sur une mine classique moyenne aujourd'hui, vous avez entre 2 et 3 grammes d'or la tonne. Vous voyez, donc c'était une région extrêmement riche en or. Et très tôt, des concessions avaient été données autour de Rennes-les-Bains pour l'exploitation de cette ressource assez phénoménale. Des siècles plus tard, et ça il faut le souligner aussi, Colbert, qui était à la recherche d'or, vous savez, on est dans la grande politique mercantile mercantiliste de Colbert, avait facilité, avait encouragé la prospection aurifère dans cette région, avec l'idée bien sûr de trouver de l'or pour alimenter les caisses de l'État. L'abbé Boudet était un homme curieux, il visitait régulièrement toutes ces mines, et il est possible qu'il se soit lui-même livré le long des nombreux cours d'eau souterrains de la région, à leur paillage, ça on n'en sait rien. Ce qui est certain avec l'abbé Boudet, c'est qu'il a écrit un certain nombre d'ouvrages, et notamment un célèbre qui s'appelle « La vraie langue celtique » ou « Le cromlech de Rennes-les-Bains », qui est un ouvrage en vérité bourré de références, de signes et de codes. Tout le livre est codé, écrivait Didier Oudinot en 1977, codé dans un ouvrage qui fut celui des hermétiques du XIIIe siècle, le langage des goulards, le langage des oiseaux, le langage clos, bref, un langage cabalistique fait de jeux de mots, de calembours, d'allégories, un type de communication qu'affectionnaient les Grecs si chers à Boudet. Et Didier Oudinot ajoutait « J'ai moi-même passé 2 semaines à me faire expliquer par un spécialiste les symboles et les mécanismes propres à ce langage. Fort de cet enseignement, j'ai passé ensuite 2 mois à mettre en clair les propos de Boudet. C'est aux Grecs qu'il emprunte la méthode, c'est de l'anglais en revanche dont il se sert pour délivrer ses messages. L'énorme travail de décryptage de la vraie langue celtique, c'est donc le nom de cet ouvrage de l'abbé Boudet, m'a vite conduit à découvrir que l'abbé n'y parle pas seulement de mérite et des mérites et de l'ancienneté de la langue anglaise, il y évoque plutôt, par d'ingénieuses comparaisons géographiques et topographiques, les mines d'or de la région. Il y a donc là quelque chose d'assez troublant. Évidemment, surtout lorsqu'on sait que dans cette même région, à la fin du XVIe siècle, un certain berger, qui s'appelait Paris, ça ne s'invente pas comme dans le mythe antique, ce Paris avait découvert de l'or et qu'il a d'ailleurs subi mauvaise fortune après avoir révélé la substance de sa découverte. Boudet, nous dit Didier Oudinot, fut sans aucun doute le premier personnage du département à posséder un appareil photographique et, chose rarissime, le matériel complet de développement. Une splendide bibliothèque faisait aussi partie de ses luxes cachés. Mangeant peu, cet homme ne s'en faisait pas moins servir dans des plats d'argent massif. Et il était en fait aussi discret sur son luxe que Saunière, en revanche, pouvait être exubérant, ce qui pourrait expliquer qu'on ait beaucoup parlé de Saunière et si peu parlé de Boudet. Notre homme, conclut Didier Oudinot, fréquenta longtemps Saunière et il versa même au curé de Rennes-le-Château de fortes sommes par l'intermédiaire, bien entendu, de l'inévitable servante Marie d'Énarnaud. Comment Boudet fut-il mis sur la voie de cette richesse? Pourquoi a-t-il éprouvé le besoin de laisser un message codé? Eh bien, ce sont des questions qui, en partie du moins, restent en suspens. Ce sont des questions que je vais poser dans un instant à nos invités.
Avec la valse du trésor, un extrait de l'opérette « Le baron de Cigane ».
Alors, je viens de poser une question, Christian Doumergue. Est-ce que finalement, on pourrait imaginer que l'abbé Boudet ait fait partie des sources de revenus et des ressources de l'abbé Saunière ?
Alors, ce qui est difficile à estimer aujourd'hui, puisque c'était un fait admis mais qu'on n'a pas pu étayer par des documents, c'est le vrai rapport entre Boudet et Saunière. Là, c'est vrai qu'on a très peu d'éléments au niveau documentaire pour l'étayer. Ce qui est certain, par contre, c'est que les personnes qui, dans les années 60, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, ont attiré l'attention sur Béranger Saunière et ont transformé cette rumeur trésoraire en mythe, ces personnes-là, dans leur construction littéraire, ont systématiquement renvoyé, non pas à Saunière, mais à l'abbé Boudet. Donc manifestement...
C'était en quelque sorte et paradoxalement plus intéressant, finalement, par la dimension du personnage et par son goût pour les codes et pour la connaissance des trésors locaux.
Absolument, parce que concernant Boudet, on a deux choses. D'abord, il a arpenté le terrain, comme vous le disiez, c'est certain. On sait qu'il a donné au musée archéologique de Narbonne un certain nombre d'objets d'époque romaine qu'il a donc trouvés. Et ensuite, il y a ce fameux livre qui, incontestablement, est codé. Et quand on essaie de le comprendre, on a l'impression que l'abbé Boudet nous parle d'un tombeau qu'il aurait probablement découvert dans la région de Rennes-les-Bains. Et c'est ça, vraiment, le cœur de son livre. C'est ce tombeau qu'il dit lié à la résurrection.
Alors, dans un instant, nous allons en venir justement à cette mythification tardive, à tout ce qui s'est écrit depuis les années 1960. On va venir à Gérard de Sède, on va venir à Pierre Plantard de Saint-Clair, évidemment, et on n'est plus très loin du Da Vinci Code avec tout ça. Car si l'affaire de Rennes-le-Château est encore aujourd'hui tellement importante, c'est que des auteurs relativement récents lui ont donné une dimension tout à fait inattendue.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Ô chercheur d'or, tu deviens fou. Tu vois partout des mines d'or.
Chercheur d'or d'Henri Salvador. Au cœur de l'histoire cet après-midi avec la mystérieuse affaire de Rennes-le-Château, on en parle avec vous Franck Ferrand et vos invités Christian Doumergue, écrivain, auteur de Le secret dévoilé, enquête sur les mystères de Rennes-le-Château aux éditions de L'Opportun et son préfacier Jacques Ravenne.
Un préfacier Jacques Ravenne qui avec son co-auteur, évidemment Éric Giacometti, vient d'adapter, j'ai les ouvrages là en ce moment même entre les mains, vient d'adapter le célèbre roman Le rituel de l'ombre en deux volumes de bande dessinée qui s'appelle Marcas, maître franc-maçon. Vous passez comme ça de l'écrit pur à l'image, en quelque sorte, Jacques Ravenne.
Oui, et puis pour la première fois, un personnage avec lequel on vit quasi quotidiennement depuis 8 ans a un visage.
Oui, voilà.
Et franchement, ça nous manquait.
Et vous, et c'est le visage évidemment que vous imaginiez, mais il a fallu que vous vous mettiez d'accord tous les deux pour établir exactement à quoi il allait ressembler. C'est là que le dessinateur entre en jeu.
Je vous laisse deviner l'intensité des échanges sur la question.
Ça devait être passionnant. En tout cas, l'ouvrage est aussi captivant sous la forme d'une bande dessinée que sous sa forme écrite. Alors, pour en venir à un autre roman, si je puis dire, qui est... Alors là, on n'est plus dans les faits et dans tout ce qu'on peut constater sur place. On est dans toute l'extrapolation. Il faut citer un personnage qui a joué un rôle essentiel. On est là dans les années 1960. C'est Gérard de Sède. Ce Gérard de Sède, c'est un peu votre prédécesseur, si je puis dire, Jacques Ravenne.
Mais Gérard de Sède, c'est le père enfanteur. Tous les gens qui ont travaillé sur la question de Rennes-le-Château, qui sont passionnés pour ces mystères, ont lu dans la petite collection rouge de chez J'ai lu les livres de l'inénarrable Gérard de Sède, qui effectivement, passant par les Templiers et les Cathares, a fini par atterrir un jour à Rennes-le-Château et a créé, avec quelqu'un en arrière-plan dont on va parler bientôt, qui est Pierre Plantard de Saint-Clair, un mythe qui va devenir universel. Ce qui est très amusant aussi, c'est que le marquis Gérard de Sède était un communiste flamboyant, façon Roger Vaillant, et qui s'est fait enterrer il y a quelques années, bien après la chute du mur de Berlin, le cercueil drapé dans le drapeau de l'URSS.
Façon Roger Vaillant, façon Visconti, enfin il y aurait toute une liste hein, de ces communistes aristocrates des années 60 et 70. Alors, quelle est la thèse de Gérard de Sède et qui va être reprise par Pierre Plantard, évidemment, Christian?
Alors, pour bien clarifier déjà la relation entre les deux hommes, en fait, c'est vrai que Gérard de Sède est la plume de ce livre, hein, Lord de Rennes, qui paraît en 67. Mais derrière lui, il a une éminence grise, Pierre Plantard, qui en fait va lui donner le contenu du livre. De Sède se contente de le mettre en forme. Qu'est-ce que fait de Sède dans ce livre? Eh bien, c'est un récit extraordinaire, puisque un certain nombre d'éléments qui jusqu'à présent étaient absolument inconnus vont émerger à ce moment-là. On va nous expliquer que l'abbé Saunière a trouvé des parchemins à l'occasion des travaux dans l'église, que ces parchemins en latin présentaient des singularités. Il s'agit d'extraits des évangiles, mais il y avait des lettres en trop ou des lettres surélevées. Tout ça va attirer l'attention du prêtre. prêtre, il s'en ouvre à son évêque. Son évêque, à ce moment-là, l'envoie à Paris, à Saint-Sulpice, rencontrer un petit cénacle de prêtres versé dans la cryptographie. Et à partir de là, il aurait compris un certain nombre de choses.
Alors, quelles choses ? C'est là qu'il faut entrer dans le vif du sujet, si je puis dire.
Alors, cette rencontre, on s'en rendra compte plus tard, est en fait fictive, aurait permis à l'abbé Saunière de connaître le secret de sa commune. Gérard de Sède, dans son livre « N'en dit pas plus », il part d'un trésor, il va exploiter cette idée du trésor mirifique, et l'abbé Saunière aurait compris, à partir des parchemins et de certains tableaux, notamment les bergers d'Arcadie conservés au Louvre, qui seraient un tableau codé,
ego, oui.
Voilà. Aurait compris où se trouvait ce fameux trésor. Et en revenant dans ses terres natales, il mène certaines recherches qui le rendent riche.
Alors, il y a évidemment toute une théorie derrière ça que Pierre Plantard va reprendre et développer lui-même.
Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, à partir des années 60, Pierre Plantard va être l'ordonnateur véritable de la construction du mythe. C'est-à-dire que De Sède est le premier auteur qu'il va mettre sous son influence. L'Or de Rennes est le premier livre qu'il va dicter à une tierce personne. Et régulièrement, il va inspirer, jusque dans les années 80, avec en 82 l'énigme sacrée d'Henri Lincoln, il va inspirer un certain nombre d'auteurs qui vont réorienter complètement l'histoire de Rennes-le-Château vers autre chose.
Avec vers Sainte-Marie-Madeleine, puisque c'était le vocable de l'Église elle-même.
Absolument. L'Église est dédiée à Marie-Madeleine et progressivement, Gérard de Sède va faire un certain nombre de sous-entendus et Pierre Plantard va rendre de plus en plus explicites ces sous-entendus jusqu'à l'énigme sacrée où il est question d'un secret dynastique liant Jésus et Marie-Madeleine qui aurait été la mère des enfants cachés de Jésus.
Cette énigme sacrée, c'est le travail d'un journaliste de la BBC, hein, c'est Henry Lincoln.
C'est Henry Lincoln qui vit toujours, qu'on rencontre quasiment tous les étés à Rennes-le-Château et qui aujourd'hui, très franchement, n'en peut plus de l'énigme sacrée. Il a totalement changé. D'abord, ça a changé sa vie et il a totalement changé d'avis.
Mais oui, parce que ça a changé sa vie, ne serait-ce que parce qu'un autre romancier, alors cette fois de outre-Atlantique, va donner à toute cette longue histoire et à cette mythologie, va lui donner une espèce de notoriété universelle. C'est Dan Brown avec son Da Vinci Code.
Vous avez une gradation, vous avez Gérard de Sède, effectivement, avec l'Or de Rennes, quelques dizaines de milliers d'exemplaires vendus. Vous passez à Henry Lincoln, là on est dans les chiffres aux autres 3 millions quand même de lecteurs. Donc là, en particulier dans le monde anglophone.
Ouais.
Et puis un beau jour, Dan Brown et sa femme, il faut le préciser, découvrent ce texte, le compressent, en tirent la substantifique moelle capitaliste, dirais-je, et en font un roman qui devient universel, à des centaines de millions d'exemplaires vendus. Et l'anecdote quand même la plus courue, c'est que le maire raconte combien de fois des jeunes gens, passés par l'université, venant du monde entier, arrivent à Rennes-le-Château et, aussitôt posé le pied sur l'unique place du village, disent « Où est la maison de Marie-Madeleine ?»
Ouais, c'est assez incroyable, c'est devenu presque une vérité. D'ailleurs, c'est un peu le défaut de Dan Brown, c'est d'avoir dit d'emblée en exergue son roman que tout ce qu'il disait était vrai. Donc évidemment, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui le croient.
En particulier, les fameux documents qui ont été déposés par Plantard de Saint-Clair à la Bibliothèque Nationale de France et dont nous savons tous aujourd'hui qu'ils sont des faux quelque peu grossiers.
Oui, c'est ça. Tout ça est mytho, si je puis dire. Alors, quand je dis mytho, est-ce que Pierre Plantard était mythographe ? Est-ce qu'il était conscient d'inventer un mythe ? Ou est-ce qu'il était mythomane et qu'il croyait lui-même à ses délires, si je puis dire ?
Alors, il y a une lecture qui a couru pendant longtemps, c'est qu'il était mythomane, effectivement, puisque, en fait, tous ses premiers livres, les lecteurs, aussi bien que les auteurs, ont cru à cette histoire, à ces documents, etc. Il y a eu, à partir des années 70 et puis surtout 80 avec l'énigme sacrée, un certain nombre de contre-enquêtes qui ont montré que tout avait été falsifié. À partir de là, Plantard a été dénigré, on l'a considéré comme un mythomane. Le travail que j'ai entrepris, moi, c'est de l'étudier d'un point de vue littéraire, avec une grille d'analyse, non pas historique, qui cherche à vérifier les faits avancés par Plantard, mais une grille littéraire qui cherche à expliquer sa pensée. Et à partir de là, on se rend compte que la construction est trop précise pour être celle d'un mythomane. C'est un homme qui a une intention bien particulière.
Alors, que pense au fond Christian Doumergue ? Que pense au fond Jacques Ravenne ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans un instant.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est ma fortune, parler tout bas, même la lune ne le sait pas. C'est ma fortune, c'est mon trésor, sable des dunes, au vent du nord.
Gilles Vigneault avec Le Trésor, un extrait de l'album Les Quatre Saisons de Picot.
Et c'est une occasion de souligner le très beau travail de Fabrice Laffitte qui réalise directement cette émission et qui aussi fait la programmation musicale. Et vous avez vu qu'à chaque fois, nous avons les musiques, les chansons, etc. qui correspondent exactement au sujet. Merci Fabrice.
Un début d'après-midi sur Europe 1 dans l'Aude. Nous sommes au cœur de l'histoire de Rennes-le-Château avec vous, Franck Ferrand.
Et oui, et alors le moment est venu maintenant de savoir quel est un peu, messieurs, le fond du fond de votre pensée. Parce que, évidemment, nous avons bien compris qu'un grand nombre de mythes se sont peu à peu greffés sur ce qui, qu'on le veuille ou non, demeure un mystère, c'est-à-dire les sources de revenus de cet abbé Saunière et les raisons pour lesquelles il s'est lancé dans ses énormes travaux au tout début du XXe siècle. Alors, lorsqu'on a parcouru l'ensemble de l'ouvrage, le secret dévoilé, on a bien sûr une idée beaucoup plus claire de tous les mythes qui se sont accumulés. Mais ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est quel est, à vous, Christian Doumergue, votre point de vue fondamental sur la question ?
Alors, mon point de vue fondamental, après effectivement plus de 20 ans à m'interroger sur ce mystère et à l'étudier, c'est qu'il y a eu une falsification des faits dans les années 60. Mais cette falsification, elle est, pour ces auteurs, un moyen de raconter de manière symbolique une découverte qu'ils ont faite, non pas à Rennes-le-Château, mais à Rennes-les-Bains,
voilà.
Et qui n'est pas
donc
liée...
chez l'abbé Boudet, là-bas. Hein.
Absolument. Et qui n'est pas lié à un trésor matériel, monétaire, mais à un trésor archéologique, entre guillemets, investi d'une valeur spirituelle.
Voilà. Alors, ce trésor archéologique, de quelle nature est-il ? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ?
L'abbé Boudet évoque la présence d'une tombe. Quand on va du côté de Pierre Plantard, on retrouve cette image de la tombe assortie de la description d'un sanctuaire souterrain. Donc manifestement, chez un homme comme chez l'autre, il y a quelque chose de lié à la présence à Rennes-les-Bains d'une sépulture importante. Et on devine que cette sépulture est possiblement occupée par Marie-Madeleine, donc première disciple de Jésus, que les hagiographies médiévales amènent dans le sud de la France et font périr dans le sud de la France. C'est un des liens, mais à travers Marie-Madeleine, il y a une ouverture sur une histoire spirituelle occultée.
Mais si une découverte a été faite, pardonnez mon esprit trop rationnel peut-être, pourquoi ne l'avoir pas clairement établie et pourquoi être passé par le biais de tous ces mythes et de tous ces textes codés et à multiples tiroirs ? Pourquoi ne pas avoir dit clairement, ben voilà ce qu'on a découvert à Rennes-les-Bains et voilà ce que ça nous apprend ?
On a l'impression que ces différentes personnes qui ont pu approcher de près le mystère, soit ne l'ont pas complètement pénétré, c'est-à-dire sont arrivés à un seuil sans pouvoir le franchir, et ont à ce moment-là décidé de transmettre les éléments qu'ils avaient à disposition pour que d'autres reprennent le flambeau après. On peut aussi imaginer, mais là on est dans le domaine de l'hypothèse, hein, par contre, que ces personnes ont bien trouvé quelque chose, ont eu peur des conséquences de l'annonce d'une telle découverte, hein, notamment au XIXe siècle, où l'Église a encore une prise importante sur le monde politique notamment, ont eu peur que cette découverte soit perdue, et à ce moment-là, ont reporté la réouverture de ce sanctuaire à une époque plus favorable à une telle découverte.
À quel moment est-ce que ce qu'elle aurait pu être faite ? Donc dans les années 60, hein, c'est ce qui expliquerait les travaux de Pierre Plantard, hein, en quelque sorte. C'est ce que...
Alors, Pierre Plantard, oui, a investigué les lieux dans les années 60. Après, ce qui est très difficile à discerner, c'est la façon dont il a pu pénétrer ce sanctuaire. Mmh. Puisque Pierre Plantard, il faut bien comprendre qu'il avait des éléments factuels, certainement, mais que c'est aussi un mystique qui, depuis son adolescence, baigne dans l'ésotérisme et le mysticisme et se pense investi, ou a été investi, ça c'est une affaire de croyance et de foi, de pouvoir médiumnique. Donc, on peut imaginer aussi que pour Pierre Plantard, ça s'est arrêté là. Il a cru retrouver, par la vue de l'esprit, un sanctuaire.
Est-ce que les francs-maçons sont mêlés à cette affaire ? Et bien sûr, je me tourne vers Jacques Ravenne pour poser cette question.
Alors, oui, ils sont mêlés indirectement ou directement. Ce qui est certain, pour reprendre ce qu'a dit Christian, l'abbé Boudet a la place importante, c'est-à-dire que l'arbre abbé Saunière cache la forêt abbé Boudet, ça c'est évident. Le mystère est plus à Rennes-les-Bains qu'à Rennes-le-Château. Plantard de Saint-Clair a monté ce que moi j'appellerais un hameçonnage. C'est-à-dire lancer un certain nombre de pistes pour voir comment les gens et certaines personnes allaient réagir. Mais il a fait des fouilles très sérieuses sur place dans les années 50, bien avant qu'on ne parle vraiment de Marie-Madeleine. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux courants. Il y a un courant de l'Église catholique qui sait quelque chose à travers l'abbé Boudet, et dont Béranger Saunière est un écho, un simple écho. Et puis il y a un courant qui est celui de Plantard-Saint-Clair, qui a récupéré quelque chose. Et nous avons trouvé avec mon co-auteur, avec Jacques Cometti, la trace de l'initiation maçonnique
donc de Plantard de Saint-Clair, qui est très étonnante parce que c'est un ancien collaborateur.
Il était collaborationniste.
Collaborationniste notoire, collaborationniste mystique, très curieux, très porté sur l'histoire de résurrection des rois de France, j'en passe des meilleurs, mais qui a fait une carrière maçonnique intéressante et qui a monté son autre organisation qu'on appelle le Prieuré de Sion avec tout un tas de francs-maçons de sa loge quand ils ont été chassés, apparemment pour malversation, semble-t-il. Alors, que s'est-il
passé ? Pour des raisons politiques que pour des raisons de droit commun.
Pour des raisons de droit commun, ce qui a toujours été un petit peu le péché mignon aussi, il faut bien l'avouer, de Plantard de Saint-Clair. La véritable question, c'est de savoir effectivement où est-ce qu'il est allé puiser vraiment la racine des secrets. Mais ce qui est amusant aujourd'hui, c'est que quand on parle de l'affaire, et c'est ce qu'a très bien monté Christian, on retrouve les deux grands blocs antagonistes en France depuis la séparation de l'Église et de l'OTA. Les francs-maçons d'un côté, avec le rejeton dégénéré qui est Pierre Plantard de Saint-Clair, et les abbés maudits du Razès.
Ah, c'est assez incroyable. On a l'impression qu'on n'en sortira pas et que quel que soit le sujet sur lequel on se penche, eh bien effectivement cette espèce de double généalogie reparaît et est active. Le secret dévoilé, enquête sur les mystères de Rennes-le-Château, c'est l'ouvrage définitif de Christian Doumergue. Je dis définitif, il y en aura peut-être d'autres du reste.
Je pense qu'il y aura
avec une double préface de Giacometti et Ravenne, bien entendu, c'est aux éditions de L'Opportun. Et puis je vous rappelle donc l'adaptation du Rituel de l'ombre sous une forme de bande dessinée, donc par Giacometti, Ravenne évidemment, et par Mapp, parce qu'il faut bien un dessinateur dans l'histoire. Et c'est, ça s'appelle maintenant Marcas, maître franc-maçon, et c'est édité chez Delcourt.